Personnalité en semaine, c'est l'émission de Frédéric Taddeï, partout, quand vous voulez.
Frédéric Taddeï.
Camille.
Regarde, les hommes changés. Bonjour Camille, vous êtes chanteuse, mais également auteur et compositeur. Vous avez 30 ans, vous avez été révélée en 2005 avec votre deuxième album, Le Fil, qui vous a valu 2 victoires de la musique. Aujourd'hui, vous sortez le troisième, Music Hall. On vous a souvent qualifié de nouveau phénomène de la chanson française. Et quand on écoute ce troisième disque, on se dit qu'en fait, vous ne faites pas du tout de la chanson française.
Je me sens musicienne, je me sens vocaliste, chanteuse. Et je pense que la musique va au-delà des frontières. C'est peut-être un cliché de dire ça, mais ça parle de l'imaginaire et ça se balade. La musique, ça traverse les murs.
Alors, vous êtes crédité des chants, des chœurs, de la beatbox. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une beatbox?
C'est faire des... Moi, je beatbox à ma manière. Hein. Il y a des beatboxeurs qui sont beaucoup... Des beatboxeuses qui sont vraiment des véritables batteries humaines. Moi, je le fais, bon, à ma manière. Voilà, c'est assez intimiste, quoi, mes beatbox. Mais c'est imiter les rythmes, enfin, ou faire des rythmes avec ça bouge.
De la même façon, sur ce disque, vous êtes crédité des percussions à eau.
Oui, on a pataugé dans le disque. Ouais. On s'est amusé avec de l'eau comme des gamins dans un bac à eau. J'allais dire à ça, mais c'était un bac à eau. On en a mis partout et voilà. Donc ça, on peut jouer de l'eau. L'eau est très musicale. Enfin, on entend des fois l'eau qui goutte, ça fait des petites notes. Et au contraire, si on enfonce un tube dans l'eau, ça fait. L'eau fait plein de bruit. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça sur un morceau. Ouais.
Et les percussions corporelles, alors j'en connais une, ça consiste à taper dans ses mains, mais
oui,
quoi d'autre?
C'est taper des pieds, taper dans ses mains, taper sur sa poitrine, comme King Kong, taper sur ses cuisses, on peut se taper un peu partout.
Et ça aussi c'est très musical?
Bah oui, ça peut l'être à partir du moment où on tape en rythme, enfin, ou oui, qu'on répète un rythme, ça devient musical.
Est-ce qu'on peut faire des notes?
Ah oui, on peut faire des... Quand on clappe des mains, ça peut être plus ou moins aigu ou plus ou moins grave.
Vous êtes effectivement une boîte à son humaine.
Aussi.
On va écouter tout de suite un extrait de ce troisième disque, Camille. C'est une chanson qui s'appelle Money Note. On en écoute tout de suite un extrait.
Le marque et le franc, il me manque marque et franc. Il me manque le marque et le franc, il me manque marque et franc.
Yeah.
one more note. It's another one.
Camille, le rythme semble devenu capital pour vous.
Le rythme est devenu capital ?
Ouais.
Ah mais le rythme il est capital, il est dans chacun de nous, notre cœur bat, quand on marche on est dans un rythme, on est tout le temps dans un rythme, on s'en aperçoit pas forcément, mais le rythme il est, enfin moi je pense que tout rythme est musical, mais sans que ce soit de la musique, on est toujours dans un rythme.
Au point de vouloir faire danser, vous aimeriez faire danser ?
Oui, j'aimerais que tout le monde se lève dès la première chanson pendant mes concerts.
Vous riez, mais il fut un temps où effectivement on faisait de la musique pour faire danser les gens. C'est plus toujours le cas aujourd'hui, en particulier pas chez les Français.
Oui, et même moi d'ailleurs dans mes albums précédents, j'ai pas forcément développé ça. La chanson française, elle est assez narrative. Mais c'est vrai que là, moi, je me sens dans une phase musicale où j'ai envie de parler de ça, de la pulse, du rythme, du tempo, de la répétition.
Qu'est-ce qui est important encore aujourd'hui pour Camille, compositeur, mais aussi chanteuse, la mélodie, par exemple?
Ah, la mélodie est très importante. Moi, je suis quelqu'un de très mélodique. Il me vient toujours des mélodies et je pense que le fait que je travaille la voix fait que plus je travaille cette voix, plus je travaille ma voix au niveau des textures, au niveau de l'amplitude, plus il me vient des mélodies variées qui se baladent, quoi. Ça me permet une liberté de mouvement dans la mélodie.
Vous en êtes contente de votre voix ?
J'en suis ravie, je la trouve magnifique.
Elle n'a aucune limite ?
Non, je me pose pas trop la question. Je pense que avant tout, faut accepter sa voix comme on s'accepte, quoi. Elle a sa nature. Et après, je m'amuse avec.
En quoi vous intéresse-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier à vos oreilles, à vous ?
Bah, elle est à l'intérieur de moi. C'est sa particularité. Elle est à l'intérieur de personne d'autre. C'est pour ça que je l'aime.
Oui, mais quand vous l'écoutez, vous vous écoutez après.
Oui, je l'écoute. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'elle trouve sa place dans le mix, ma voix. C'est un peu technique ce que je dis, mais elle peut être assez perçante. Elle peut parfois être un peu, je trouve, à mon sens, un peu agressive sur certaines fréquences. J'y travaille, mais en même temps, elle est assez, assez perçante, assez cristalline. Donc, on l'entend dans un morceau, quoi. Elle prend sa place assez rapidement.
Camille, on vous a qualifié de phénomène. Est-ce que vous trouvez vous-même un phénomène ?
Ça veut dire quoi un phénomène ?
Bah justement,
ça veut dire quoi ?
Oh, on pourrait dire que ça implique qu'il y a de la singularité chez vous en tant qu'artiste et de l'audace.
De l'audace. écoutez, s'il y a phénomène, en tout cas, c'est de l'ordre de la réaction à ce que j'offre aux autres. J'offre ce que je ressens et je crée ce que j'ai envie de créer. Et après, le reste, c'est vrai que ça ne m'appartient pas. Quoi. C'est les autres qui créent le phénomène. Donc, il faut demander aux autres, quoi. En fait,
l'audace. On dit qu'il est de plus. On y reviendra. Vous inquiétez pas. On dit qu'il est de plus en plus difficile d'être audacieux. On le dit dans l'industrie du disque, mais on le dit aussi dans le cinéma. On le dit un peu dans tous les arts. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Moi, je trouve pas que c'est difficile d'être audacieux. Je pense qu'on est audacieux vis-à-vis de soi-même avant tout. C'est un travail vis-à-vis de soi parce que je pense que les barrières, on se les crée tout seul. Le regard des autres, on se l'invente.
Donc le manque d'audace de l'industrie, ce serait un cliché derrière lequel se réfugient certains pour...
Moi, je pense que c'est la responsabilité des artistes de faire les choses, et même avec peu de moyens. Je pense qu'on peut toujours créer un phénomène, effectivement, faire acte, créer quelque chose. Ça peut coûter 3 francs 6 sous, et je pense que c'est un faux problème. C'est pas un problème... oui, ça peut être un problème économique. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est très...
Donc on peut être singulier, on n'est pas obligé d'entrer dans le moule. Et on peut être audacieux, on n'est pas obligé de se freiner.
On peut aussi créer des moules.
Vous croyez qu'on en...
Moi, je crée des nouveaux moules. J'essaye de créer des moules en forme, je sais pas, des trucs un peu délirants.
Si on est singulier, on crée un moule, effectivement, mais au moins on le crée.
Ouais, voilà, on crée des moules.
On n'entre pas dedans. Est-ce que, quand on est en train de faire un disque, comme ça a été votre cas, là, Music Hall vient de sortir, quel était votre pire ennemi?
Qui a été mon pire ennemi, pardon, je pensais à autre chose.
Au moment où vous étiez en train de préparer ce disque, de le composer, de l'enregistrer, ouais. Quel était votre pire ennemi?
Je me sens pas contre un ennemi, non.
On pourrait dire, il y a la tendance, le courant, ce qu'on entend à l'extérieur, son producteur, son manager, attaché de presse, vous-même peut-être, qui vouliez, il y avait peut-être en vous une Camille qui voulait refaire le même disque que la fois dernière?
Je sais pas si c'est un ennemi. Je pense que l'ennemi, c'est le meilleur. J'aurais tendance à dire l'espace-temps. Mais l'espace-temps, c'est un ennemi et c'est un allié dans le genre, dans un processus créatif.
Qu'est-ce que vous appelez l'espace-temps?
Bah, par exemple, il y a toujours des deadlines. Il y a toujours des. On dit deadline. D'ailleurs, c'est une ligne morte.
Ça veut dire qu'il y a une date au-delà de laquelle on ne peut pas continuer.
Voilà, c'est ça. Ou des limites de budget, ou des limites tout ça. Donc, on pourrait dire que ça, c'est. Oui, c'est limitant. Il y a le compteur qui tourne, il y a le temps qui passe, il y a des contraintes pratiques. Donc, en effet, des fois, oui, ça, on manque de temps. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est un bon allié parce que sans ça, on n'aurait pas l'énergie pour faire les choses.
Est-ce qu'il y a une émulation? Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous écoutez et vous avez envie de dépasser ou d'épater?
On l'a dit. Mariah Carey. Bah, je le dis dans la chanson qu'on vient d'écouter. Je veux battre Mariah Carey. Je veux chanter plus haut qu'elle. Voilà, non.
Oui, c'était une plaisanterie.
C'était une plaisanterie.
Y en a-t-il d'autres? Les jazzman dans les années 50, mais pas seulement dans les années 50, il y avait une émulation. Ah. Entre les Beatles et les Stones dans les années 60, il y avait une émulation. Ils voulaient s'épater eux-mêmes.
Ouais, mais est-ce qu'ils l'avouaient?
En tout cas, ils le savaient. Là, ils ne l'avoueraient qu'après.
Moi, je ne l'avouerai qu'après.
Vous, pareil, vous ne voulez pas dire qui vous inspire, qui vous motive.
Si, il y a plein d'artistes que j'adore. Mais après, je pense que c'est un faux truc de vouloir dépasser quelqu'un ou d'être en concurrence en termes de création. Parce que, en fait, j'ai l'impression que les artistes que j'aime beaucoup, ce que j'aime chez eux, c'est leur originalité, c'est leur liberté. Je pense qu'on la trouve à l'intérieur de soi, en fait. Ça, c'est des choses. En fait, c'est un lien à soi-même qu'on doit trouver. C'est pas forcément faire la même chose qu'eux ou être plus fort qu'eux.
J'entendais pas par faire la même chose, ouais. Mais si quelqu'un, je sais que Brian Wilson, quand il a sorti un disque célèbre des Beach Boys, tout ouais. À coup, les Beatles ont eu envie de faire aussi bien. Ils ont fait Sgt. Pepper.
Ah ouais, bah c'est sûr qu'il y a l'émulation. Moi, il y a plein d'artistes que j'adore, des producteurs. J'adore Björk, j'adore Timbaland. J'aime beaucoup en chanson française, j'aime beaucoup Nosfell, qui a un travail très, très personnel avec le langage. Il y a plein de gens qui me stimulent, effectivement. Ouais.
Vous voyez, vous avez fini par l'avouer.
Jusqu'à 16h, sur Europe 1, regarde les hommes changer.
Camille, je vous propose d'écouter un autre extrait de ce troisième album, Musical. C'est une chanson qui s'appelle « Home is where it hurts ». Vous pouvez le traduire en français ? La maison, ouais, c'est là où c'est, ça fait mal.
Ouais, c'est, ça sonne bien.
On va dire que c'est ça, on l'écoute tout de suite.
My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle. Almost no keys. If you're here to rob me, there's nothing to steal.
Camille, finalement...
Oh, vous avez interrompu le ma chanson, dis donc.
Vous aviez trouvé une meilleure traduction finalement. Hein.
Nous avons trouvé une traduction ensemble. Chez soi, c'est là où ça fait mal, on avait dit. Oui, chez soi, ça fait mal.
Chez soi, c'est là où ça fait mal. Ouais. Voilà, c'est ce qui vous semblait bien. Vous l'aimez cette chanson?
Vous voulez qu'on écrive des chansons ensemble?
Si vous vous remettez au français, peut-être. En ce moment, ce disque, il est encore tout frais. Il vous plaît totalement?
Ah, est-ce qu'il me plaît totalement? Oui, il me plaît totalement. Oui, il me plaît totalement. De toute façon, moi, mes disques, même quand je trouve des choses à redire dessus, j'estime que c'est un moment de ma vie et c'est comme une photo. Voilà, j'ai rien à redire parce que ça dit la vérité sur ce moment-là.
Mais vous pourriez déjà regretter être comme Bonnard qui retournait au musée ou chez le collectionneur pour corriger son tableau.
Non.
Il aurait eu l'impression qu'il pouvait être encore mieux.
Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, en plus on a cette chance là quand on est musicien de pouvoir faire vivre les chansons sur scène après. Donc on a cette deuxième chance. Donc les petits trucs que j'ai à redire ou que les arrangements que je veux changer, bon, j'ai pas autant de musiciens que de pistes sur le disque, mais je peux les faire vivre autrement après sur scène, c'est ça qui est bien.
Vous étiez récemment à Samoa pendant
Samoa, N2N, Nadine.
Samoa, c'était Django Reinhardt. Voilà. Samoa, donc, 3 jours, vous avez commencé à jouer en public et il paraît que au lieu d'utiliser des machines, vous aviez eu l'idée de distribuer les rythmes dans le public. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous faisiez?
En fait, sur la tournée précédente, j'utilisais ce qu'on appelle un looper, qu'on a vu pas mal avec Anaïs, avec Nosfell qui l'utilise, avec...
On chante et puis après, ça repasse indéfiniment.
Oui, c'est voilà. On enregistre les voix en live, en direct. Et voilà, comme ça, le public peut voir en direct le processus d'enregistrement, finalement.
Et puis après, on le rediffuse en boucle.
Voilà. Et là, j'ai eu envie de développer le looper humain. C'est-à-dire que je donne aussi bien à mes musiciens qu'au public des rythmes à répéter. Ou des mélodies.
Vous allez le faire maintenant systématiquement sur scène.
Ta 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 ta. Voilà, je vous l'envoie maintenant. Vous répétez.
Je suis incapable. Je chante totalement faux.
Ta 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 ta.
Alors. Ta 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 ta.
Bah voilà, vous êtes un excellent looper humain.
Visiblement, on va plus se quitter entre écrire les paroles et faire vos cœurs. Voilà. Est-ce que vous croyez à un sens de l'histoire dans l'art, dans la musique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des portes qu'ouvrent les génies dans lesquelles ensuite tout le monde s'engouffre et ensuite on le passe à la porte suivante?
Je sais pas si je crois à l'idée de génie. Je pense que...
Il y en a eu quand même, non?
Oui, il y a des gens inspirés, mais il y a toujours un contexte. Et il y a toujours effectivement ce phénomène de réponse à ce qui a été fait avant. Et je pense que oui, je pense que l'histoire de l'art, de la création humaine, que ce soit dans l'art ou dans l'architecture ou dans n'importe quel domaine, on répond toujours à ce qui était fait avant et à ce dont on est entouré.
C'est une grande période pour vous en ce moment?
Une grande période.
Musicalement, on invente beaucoup.
Je sais pas si j'invente, mais en tout cas je
parlais de tout le monde en général, hein, pas seulement de vous.
Ah d'accord.
Mais vous pouvez répondre pour vous aussi.
Oui, moi j'allais vous répondre que je sais pas si j'invente, mais qu'en tout cas j'ai l'impression que je ressens plus les choses physiquement, la musique dans mon corps, quoi. J'ai ce sentiment là. Pour ce qui est de la musique en général, est-ce que c'est une grande période? Je pense que c'est toujours difficile de répondre là-dessus quand on est immergé dedans et a fortiori quand on est musicien soi-même et qu'on parle de musique. Je pense que vous, en tant que journaliste, vous devez avoir une vision plus panoramique et moins subjective d'une certaine manière de la chose.
L'impression que j'ai, moi, par exemple, ouais, c'est que pour la première fois, la musique est souvent faite par des non-musiciens.
Ah,
est-ce
bah
que
ça,
vous y êtes sensible?
Et vous pensez à qui, par exemple?
Oh, bah, il y a un certain nombre de rappeurs, mais des gens de la musique électronique. Il y a les DJ qui sont devenus, ouais, des producteurs de musique. Je parle pas de ceux qui compilent des morceaux qui ont été faits par d'autres, mais ceux qui inventent de la musique sans être eux-mêmes musiciens.
Bah, ce qui est bien, c'est que, moi-même, je suis autodidacte, hein. Je peux pas dire, je sais pas si je peux me dire que je suis musicienne. Je sais pas si j'ai assez de compétences, de savoir en la matière. Je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, être musicien, c'est bon. Mais il y a tellement de traditions différentes, de manière de l'écrire, de la transmettre, de la vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de gens ont accès à un matériel comme en photo d'ailleurs, comme dans plein de domaines où on peut faire les choses soi-même. Et moi, je trouve que c'est tant mieux, parce que moi-même, je vois pas la musique comme quelque chose de professionnel ou qui doit l'être. Je pense que c'est presque une hygiène de vie, c'est une manière de chanter la vie, tout simplement.
L'été dernier, Camille, vous avez chanté du Benjamin Britten dans des églises, des cathédrales, des abbayes. Benjamin Britten, c'est un grand compositeur de musique.
C'est pas un DJ.
Grand compositeur de musique classique anglais du XXe siècle.
Ouais.
Alors, vous avez chanté des chants sacrés. Est-ce qu'il vous semble, par exemple, qu'il n'y a plus de sacré dans la musique alors qu'il y en a eu?
Oh,
ça avait une importance. Est-ce que c'est ce qui vous manquait?
Benjamin Britten, enfin, en tout cas, je rectifie juste un truc, c'est que j'ai chanté des chants sacrés. J'ai chanté à la fois Benjamin Britten et des chants sacrés dans la deuxième partie du spectacle. Voilà. Et Benjamin Britten, c'était des chants. Oui, c'était bon. Passons. Mais le sacré dans la musique. Moi, je pense que le sacré, c'est quelque chose que chacun peut créer. Que la société institue et que chacun peut se créer. Moi, je pense que il y a des gens qui, par exemple, venir à un concert d'un certain artiste, ça va être sacré. Ça va être, ils vont se préparer, ils vont se mettre d'une certaine manière, ils vont écouter religieusement, comme on dit. D'autres qui vont y aller avec juste pour voilà le fun, comme on dit. Il y a des concerts qui ont l'air de messe des fois. Donc bon. Vous alliez m'interrompre?
Pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Je vous en prie, continue.
Donc non, je pense pas que le sacré il se perd. Je pense pas. Après, moi en tant que musicienne, j'ai un rapport à la musique qui est très fort et qui est très important dans mon existence. Après, de là à dire que la musique est sacrée, non, je pense que ça dépend de chacun, du rapport de chacun à la musique.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Camille, vous avez fait Sciences Po et une
c'était
licence.
C'était donc le jingle.
C'était le jingle, le petit signe. Vous avez fait Sciences Po et une licence de lettres. Dans quel but à l'époque où vous êtes entrée à Sciences Po? Qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez l'idée de faire un travail particulier?
Oh, c'était Sciences Po était une fin en soi, n'est-ce pas?
Mais c'est assez prestigieux, c'est encore très bien coté, Sciences Po. Ça a permis de préparer l'ENA, par exemple.
Oui, non, l'ENA, ça m'a jamais vraiment attirée, mais non, j'avais envie de faire des études, pour faire des études, parce que c'est, je sais pas, ça me paraissait
important. Donc c'était bien une fin en soi.
Oui, tout à fait. Enfin, comme on dit, faire ses humanités, voilà. C'était un savoir général, une manière d'apprendre, une structure. Enfin, j'avais envie de ça. J'avais
ça
pas
vous
envie
a épanoui
de ça. Non, ça m'a pas épanoui, mais je pense que, enfin, ça m'a épanoui indirectement, parce que je pense que de l'avoir fait qu'on relativise toute l'idée d'élite, de culture, qu'on est passé par là, et que du coup, on met plus ça sur un piédestal, et du coup, on est libéré de quelque chose. En ce sens-là, ça m'a épanoui. Ouais.
Vous n'avez pas voulu faire d'école artistique? Vous pensez que l'art, ça ne s'apprend pas, ça se travaille?
Je me sens plus prête à l'apprendre maintenant, je pense. Ou alors, j'aurais été prête à l'apprendre comme un compagnon le faisait au Moyen-Âge, en allant de maître de plusieurs... passant de maître en maître. Mais de faire une école d'art... Non, j'avais pas envie de me retrouver sur des bancs d'école avec d'autres élèves et avoir des examens. Je sens que c'est, faut que ça parte de soi. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose en soi, alors après, on peut affiner un savoir technique.
Vous avez enregistré votre premier disque alors que vous étiez encore à Sciences Po et il fallait un stage en entreprise.
C'était stage de fin d'année en fait.
Un stage de fin d'année pour Sciences Po et vous leur avez demandé de valider comme stage de fin d'année l'enregistrement de votre disque.
Ouais.
Ils ont accepté.
Ils ont accepté, je les remercie encore. J'ai trouvé que c'était une grande preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit.
Faut dire que c'est vrai que c'était un vrai travail.
C'était un vrai travail.
Avec beaucoup de gens. Il allait y avoir un résultat à la fin. Et s'ils avaient refusé, qu'est-ce que vous auriez fait?
Je fais, oui, c'est dégueulasse, mais je suis dégueulasse, je fais quand même.
Vous l'auriez fait quand même, vraiment?
Bah, évidemment.
Mais
les chansons étaient écrites, le studio était...
Mais vous auriez quand même été faire un stage en entreprise parallèlement pour que...
Écoutez, moi j'ai du mal à parler comme ça, en refaisant la vie, les trucs. Non, moi je pense que ça devait être comme ça. Ça s'est fait.
Vous êtes fataliste?
Non, pas fataliste, mais je pense que les choses qui ont été comme ça, c'est comme ce que je vous disais sur les disques tout à l'heure, c'est, elles sont comme elles sont, les choses, voilà. Et puis,
Mais à ce moment-là, est-ce que Sciences Po, ça comptait encore beaucoup pour vous, ou est-ce que c'était devenu anecdotique, juste un hobby que vous faisiez en parallèle de cette carrière musicale qui s'ouvrait?
Non, j'avais envie d'avoir mon diplôme, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Ouais.
Vous l'avez aujourd'hui, vous sentez bien.
Oui.
Vous aviez donc fait un premier disque, ça s'appelait Le Sac des Filles.
Ouais.
On va en écouter tout de suite un extrait, c'était en 2002.
Trop de questions. To be or not to be. Est-ce que Dieu existe? Mais pour comprendre la marche du monde, il faudrait que les hommes m'expliquent qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles. Le sac de Joséphine. Ces idéaux de son empire se creusaient encore la cervelle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes? Élémentaire, mon cher Watson, des sacs de filles pleins à rabord, des brunes, des rousses, des boucles d'or. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles?
Camille, c'était plus classique à l'époque, c'était plus narratif, pour reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure.
Ouais, ouais, j'aime bien cette chanson. Je la réécoute, là, je dis, ah, c'est pas mal.
Mais tout de même, c'était plus classique. Ça vous embête pas?
Pourquoi non? Maintenant, comme je vous dis, c'est une période, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons, non? J'aime bien.
Et la musique brésilienne?
Oh, et alors la musique brésilienne?
Mais je vous la reproche pas. Je vous la reproche pas.
Alors.
Pourquoi?
Eh ben,
tout
elle va aller très bien, la musique brésilienne. J'adore la musique brésilienne. Vous voulez que je vous en parle?
Oui, pourquoi pas.
Ouais, alors, pourquoi, j'adore cette musique. C'est une musique qui sait avoir l'intimisme de, qu'on a par exemple en France, dans les pays latins, à raconter des histoires, à susurrer à l'oreille les choses. Il peut y avoir des voix très très douces dans la musique brésilienne. Et des voix aussi très très puissantes, et tout ça est très très mélodique et se mélange à des rythmes hyper métissés, et donc ça fait une musique pour moi qui est extrêmement extrêmement riche.
Ce disque, Camille, n'a pas eu beaucoup de succès au départ. Comment l'avez-vous pris?
Le sac des filles.
Ouais.
Ah mais je me suis pas du tout. Enfin moi j'ai l'impression que j'étais tellement heureuse de faire des concerts, de pouvoir vivre de ma musique. Puisque j'avais signé un contrat avec une maison de disques, quand même, j'en vivais déjà à l'époque, que j'ai pas du tout.
Après le succès du deuxième album, ouais. Tout à coup, il y aura du succès aussi pour celui-ci. Les gens vont se précipiter sur votre disque précédent. Il va en profiter.
Oui, et d'ailleurs, le sac des filles, mon premier disque, a beaucoup profité du succès du deuxième disque, Le Fil. Et je dois dire que j'étais vraiment très, très heureuse.
Mais alors, justement, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas assez bon au départ pour marcher tout seul, ou parce que les gens ne l'ont pas compris, ou il ne s'est pas bien vendu parce qu'il avait été mal vendu, ou parce qu'il n'y avait pas de tube?
Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense que le succès, bon, c'est dû au qualitatif, à la qualité de ce qu'on propose, mais c'est dû aussi beaucoup aux médias. Et je pense que les médias, eh ben, il leur faut du temps, parfois. Et là, ça a été le cas pour aussi bien pour l'artiste de savoir se présenter aux médias et au public que pour les médias de pouvoir réagir et de pouvoir identifier, en parler. Voilà. Moi, ça a pris ce temps-là. Je pense pas que c'est que mon premier disque a été moins bien, ou enfin je pense pas que ce soit dû seulement au disque, je pense que c'est dû à un contexte.
Par la suite, vous collaborerez avec Jean-Louis Murat, avec Gérard Mancé, Locu Akanza et un collectif intitulé Nouvelle Vague. Qu'est-ce qui vous ont appris tous? En quoi est-ce que ça vous a influencé tout à coup de collaborer avec d'autres?
Bah, ça m'influence comme n'importe quelle rencontre en fait. On rencontre tous des gens dans la vie et à chaque fois ces personnes nous apportent des choses différentes. Et en musique,
tous, forcément tous.
Ah bah en tout cas ces personnes avec qui j'ai collaboré que vous citez m'ont tout apporté quelque chose de particulier. Je peux même en parler. Nouvelle Vague, ça a été déjà une première expérience de chanter en anglais. Ces chansons qui issues de la New Wave et de faire tous ces concerts en dehors de la France, en France et en Europe. Jean-Louis Murat, c'était une rencontre extraordinaire. J'ai plongé dans son monde. Il m'a expliqué comment il travaillait. C'était passionnant. Je sais plus qui d'autre vous avez cité, mais
Kanza,
c'est la première personne pour qui j'ai écrit une chanson. Ça a été très très difficile parce que ça m'a pris un temps fou, beaucoup plus de temps que ce que je prends pour moi-même en fait. C'est faire un quelque chose sur mesure pour quelqu'un, c'est très délicat. C'est beaucoup de responsabilités. Gérard Mancé, ça a été assez rapide. C'était une après-midi. Je l'ai rencontré, voilà, très très brièvement. C'était un beau morceau.
Il est très admiré, Gérard Mancé, par les autres musiciens. D'autant plus qu'on ne le voit jamais.
Ouais.
Il est venu dans cette émission. Qu'est-ce qui représentait pour vous, Gérard Mancé?
Bah, écoutez, je connaissais pas son travail quand il m'a appelé. On m'a dit attends, Gérard Mancé t'a appelé. Attends, faut que tu le fasses. Donc je l'ai rencontré et j'aime
bien.
Vous
n'avez pas été déçu?
Pas du tout. Moi j'aime bien. Moi je trouve que l'innocence c'est une grande qualité et surtout dans la rencontre et dans la rencontre artistique, je trouve ça bien de rencontrer les gens. Comme c'était le cas pour Nouvelle Vague, je connaissais rien de toutes ces chansons punk et du coup on arrive soi-même tranquille et puis voilà on réagit tout naturellement aux choses.
En dépit du fait que le premier disque ne s'était pas très bien vendu, vous en avez fait un deuxième qui s'intitule Le Fil. C'est grâce à lui que vous allez connaître un grand succès. Est-ce que vous avez eu toute liberté pour le faire?
Ah, j'ai eu toute liberté pour le faire comme pour faire le disque suivant.
Oui, mais le disque suivant, c'est normal. Le deuxième avait bien marché. Mais
oui,
quand le premier
beaucoup
n'a
de
pas
journalistes
marché...
me demandent, t'avais pas la pression parce que le précédent avait marché. Alors, dis-nous qu'on a dû mettre la pression. Moi, c'est comme ce qu'on disait en début d'interview. Je pense que la pression, on se la met à soi-même, en fait.
La liberté artistique, c'est la même chose. Ça dépend de personne d'autre.
Non, ça dépend que de soi. Et moi, le film, je l'ai fait avec beaucoup de joie et je savais très bien ce que je voulais faire. Et je pense que la maison disque était d'autant plus contente que je savais ce que je voulais faire. Et je pense que ça rassure tout le monde d'avoir des artistes, des musiciens qui savent là où ils veulent aller.
La caractéristique de cet album, Le Fil, c'est une note qui est omniprésente, c'est un si, hein,
elle
je
est
crois.
Omniprésente, en même temps elle se fond au paysage.
Alors expliquez-nous, parce que pour des profanes, on se dit forcément les notes, il n'y en a pas beaucoup, elles doivent être omniprésentes, hein, quoi qu'il arrive. Alors expliquez-nous en quoi c'est particulier.
En fait, on appelle ça un bourdon, c'est un nom un peu bizarre, quoique j'ai beaucoup de sympathie pour les bourdons, mais je crois que ça fait référence aux cloches... peut-être c'est une cloche, un bourdon aussi. C'est une note qui reste la même toute la durée d'un morceau. Il y a beaucoup ça en musique indienne, dans les musiques religieuses, et on construit le morceau sur cette note. Ça donne la tonalité, ça donne l'atmosphère du morceau. Et là, j'ai voulu faire tout mon disque sur une note tenue.
Alors là, on va écouter un extrait de Ta Douleur, qui est la chanson que tout le monde a remarqué à ce moment-là. Est-ce qu'il faut écouter quelque chose de particulier pour entendre ceci si particulier?
Normalement, sur l'introduction, comme il n'y a que ma voix par-dessus, vous devriez entendre la note. Ouais.
On va voir si j'espère qu'on a gardé la traduction. On écoute tout de suite un extrait.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui est c'est un gauche des satourages avant l'été, sa chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur. Ceux qui n'ont plus rien, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se tombe entre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'on veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, pour vivre ou que tu meurs? Change de godasse, je croule sous les fleurs. Change de couleur, je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur.
Camille, quand vous l'avez fait écouter à la maison de disques, ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Là, je me remémorais en l'écoutant que, avant de leur faire écouter, j'étais en train d'enregistrer ça, cette chanson, où je fais. J'étais en Angleterre avec Magic Air en train de l'enregistrer, et puis mon éditrice m'appelle et me dit, la maison de disques s'inquiète un peu, ils ont toujours rien écouté, et bon, je leur ai dit, de toute façon, t'étais pas en train d'enregistrer des paix et des rots. Je lui dis, bah, si, justement. Faites-lui confiance, elle écrit des chansons, tout va bien. Ouais, des chansons avec des pédéros.
Et alors, quand ils l'ont entendu, ils ont aimé?
Mais oui, oui.
Quand vous écrivez des paroles, parce que là, les paroles sont en français, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est le sens? C'est la sonorité? Vous allez me dire les deux, mais tout de même.
Bah, je vais vous dire les deux. Les deux, mais tout de même. Les deux.
Il y a un langage musical des mots, et puis il y a un langage...
Oui, les deux se mélangent. Et moi, j'ai un rapport très oral aux mots, de plus en plus oral. Bon, j'ai fait des études, j'ai beaucoup écrit. Mais plus ça va, plus je chante, plus je dis les mots, je les chante et je les écoute, en fait.
Vous avez beaucoup écrit quoi?
Non, je pensais qu'au niveau de, quand on fait pas mal d'études, c'est vrai qu'on a un rapport assez analytique avec la langue. Et je pense que j'ai un rapport moins analytique justement avec la langue anglaise parce que j'ai pas fait autant d'études en anglais. Donc j'ai un rapport peut-être plus oral à la langue anglaise, mais je l'ai aussi à la langue française. Et je pense que sur le fil, j'ai un peu basculé, c'est-à-dire que aussi parce que je pense que j'ai travaillé avec un anglo-saxon sur la production. Enfin, un anglo-saxon, un anglais, en l'occurrence. Mais j'ai commencé à avoir un rapport plus chanté aux mots, en fait. Que les mots, ils sont quand on les chante, en tout cas, on les entend avant même de les comprendre, je pense.
Avez-vous eu, Camille, un rapport analytique avec le succès? Parce que là, il y a eu le succès, tout à coup.
Un rapport analytique avec le succès. Moi, j'ai envie de dire que c'est plus physique, en fait, bizarrement. Hein. C'est que le succès, il y a une agitation. Mais je trouve que cette agitation est compensée. Enfin, cette agitation qui peut paraître complètement soit frénétique, soit incontrôlable, soit qu'elle vous dépossède, que bon, c'est un peu flippant. Elle est compensée par l'énergie qu'on reçoit pendant les concerts. Et comme j'ai pendant le succès du disque, j'ai énormément tourné, j'ai énormément fait de concerts. Ben j'avais cette espèce de contrepoids très très réel. De la scène, des concerts où on échange, où il y a un échange très équilibré. Donc je vis pas le succès, j'ai pas vécu le succès comme quelque chose de qui m'a fait peur ou qui m'a déstabilisé.
Tous les après-midi sur Europe 1, Frédéric Tadéhi regarde les hommes changer.
Camille, vous avez reçu deux victoires de la musique pour ce disque, Le Fil. Comment jugez-vous le jugement des professionnels de la profession, de votre milieu? Est-ce que c'était important?
Oui, c'était très important. Que ce soit des professionnels, des journalistes ou des personnes du public, c'est toujours un signe, j'allais dire, d'amour ou en tout cas d'approbation que vous donnent les autres. Donc ça prend des formes différentes. Ça peut être un prix, ça peut être des applaudissements, mais je pense que c'est la manifestation de la même chose. Donc c'est très agréable.
Depuis que vous avez commencé à faire des disques, Camille, le monde a bougé, la France aussi. Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que ça a de l'influence sur vous? Ce monde extérieur qu'on ne voit souvent qu'à la télévision ou qu'on lit dans les journaux, est-ce qu'il vous change en tant qu'artiste?
Bien évidemment, ouais, énormément. Même si en tant qu'artiste, effectivement, j'ai tendance, enfin moi en tout cas, j'aime bien sentir les choses directement. Les avoir vécues pour en parler ou pour être touchée par elles. Et je vis comme une grande violence, effectivement, ce dont vous parlez, de vivre les choses via un écran de télé. Ou je regarde ça avec beaucoup de... J'essaie de me protéger de ça. Et je préfère sentir les choses dans la rue, dans le quotidien. Et on sent beaucoup de choses quand on ouvre un peu les yeux. Il ne se passe que des choses qu'à la télé. Bien sûr, j'y suis sensible, ouais.
Alors, par exemple, qu'est-ce qui fait que Music Hall, votre troisième album, est ce qu'il est? Est-ce qu'il y a eu des événements déterminants?
Des événements déterminants à l'extérieur, vous voulez dire?
À l'extérieur ou à l'intérieur, enfin du moins dans votre vie quotidienne.
Le nom à l'Europe, par exemple.
Vraiment, ça a joué.
Je sais pas si je dois réfléchir. J'y ai pas pensé consciemment, mais certainement que, enfin moi je suis pour l'ouverture, je suis pour le multiculturel, je suis un symptôme de ça, voilà. Il y a des gens qui vivent au sud de la France qui sont ouverts sur l'Espagne. Moi, je suis assez ouverte sur le monde anglo-saxon de par mon histoire personnelle. Et voilà. Et je suis pas protectionniste avec ma culture et j'aime Enfin, je me sens comme un mélange de choses, voilà. Même si je suis évidemment née à Paris, française, etc. Voilà, je suis pour l'ouverture et le partage. Et c'est des questions très récurrentes que j'entends du côté anglais comme du côté français. Alors là, vous chantez en anglais, vous chantez en français. Et je trouve ça très, très, très symptomatique de quelque chose, de quelque chose qui n'est pas digéré, quoi.
À savoir que pour vous, ça n'a aucune importance de chanter en anglais ou en français? C'est une question uniquement de sonorité?
Non, non, ça a beaucoup d'importance, c'est ce que je vous dis. C'est que ça, je sais que ça signifie... pour moi, ça signifie une ouverture. Et une ouverture aussi bien à intérieure que extérieure.
Une ouverture, on pourrait dire aussi, en étant un peu cynique, une ouverture au marché. C'est
oui,
aussi que vous allez être écouté
oui,
par ceux
sûr.
Qui n'écoutent pas les chanteurs français.
Oui, oui, c'est terrible. Il y a un journaliste le notait d'ailleurs, un journaliste anglais le notait dans une interview, enfin dans un commentaire qu'il faisait sur mon disque, qui disait voilà, moi commence à s'y intéresser parce qu'elle chante en anglais et non pas parce que sa musique a totalement radicalement changé ou voilà. Non, c'est parce que je chante en anglais que la presse anglaise commence à s'intéresser vraiment à mon travail, et il le déplorait, et c'est vrai que c'est déplorable. Mais je pense que les Français sont plus ouverts sur les autres musiques que le marché anglo-saxon, justement, parce que peut-être on est moins autosuffisant, mais qu'on est à un carrefour, peut-être plus.
Et qu'on est plus petit aussi.
On est plus petit, ouais. Les États-Unis, c'est un pays continent. Hein.
Ils commencent à s'intéresser
aussi,
à vous, d'ailleurs. Les États-Unis.
Le disque n'est pas encore sorti. Le précédent avait un très bon accueil, un très bon succès d'estime, quoi, auprès de certains journalistes, et les concerts s'étaient très bien passés. Mais c'est pas un succès populaire.
On va voir si ça commence avec celui-là. On en écoute un troisième extrait de Music Hall. C'est la première chanson du disque. Ça s'appelle Gospel with No Lord.
Allez, Camille, allez. Allez, Camille, Simon, allez. Allez, Camille, Simon, Sonia, allez. Allez, Camille, Simon, Sonia, Florence, allez. Allez, Camille, Simon, Sonia, Florence, Hervé, allez. I didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord. Myself.
Camille, aujourd'hui, vous, en tant qu'artiste, vous savez en quoi vous êtes bonne ou vous avez besoin que les autres
vous
disent ?
J'ai des gros seins.
Ça peut
ça,
jouer.
Et ça, ça,
ça peut jouer.
Ça, ça joue. Ça,
et, sûr, et, voilà. Et il suffit que vous le sachiez, vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme.
Que je sache quoi, pardon ?
Oui, vous écoutez pas du tout. Je me demandais si vous aviez besoin de, du jugement des autres ou si vous saviez, vous, toute seule, quand c'est bon et quand ça n'est pas bon. Alors qu'on
sens,
parle
je...
de vos seins ou qu'on parle de vos chansons.
Non, mais je sens quand c'est bon, bah comme comme un truc qui est bon qu'on goûte ou qu'on vit. Quand la musique elle est bonne, on le sent en soi, on éprouve du plaisir. Donc ça que je le sais, quand j'ai du plaisir, et je sais que d'une certaine manière la musique est bonne parce que j'éprouve du plaisir et que du coup forcément elle doit être plus harmonieuse que si je n'éprouve pas de plaisir. Plus ça va, plus je sens du plaisir à chanter, à faire de la musique. Après. C'est important que l'extérieur réagisse parce que la musique ça se partage, bon ça se chante dans sa douche, mais moi j'adore partager la musique, donc évidemment que la réaction des autres est très importante.
Si demain les journalistes écrivent plutôt du mal de ce disque, si le public le boude, ça changera donc votre regard sur lui.
Je me poserai des questions, ouais, je me poserai des questions. Ça voudra pas dire que je l'aimerais moins, et que, mais je le comprends de l'intérieur, se disait donc. Mais je me pourrais, bien sûr, ça me ferait me questionner. Ça serait pas forcément négatif d'ailleurs.
Avant de jouer dans une salle, et vous allez jouer dans de nombreuses salles, ne serait-ce que cette année, on va en parler. Il paraît que vous les visitez toujours vides. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous écoutez quand vous êtes dans une salle vide ?
Je fais ça, je fais Voilà. Je check l'acoustique du lieu et puis je regarde un peu comment il est foutu, les recoins, les qu'est-ce que les gens voient de telle place, de telle autre place.
L'histoire du lieu a de l'importance.
Ouais.
Qui est venu, qui y a chanté ?
Pas forcément ça, parce que j'ai l'impression que chaque artiste qui rentre sur une scène, c'est comme si elle était sienne. Non, c'est pas forcément ça. Quoique l'Olympia. J'ai toujours pas fait l'Olympia, on dit ça, mais j'ai toujours pas chanté l'Olympia, c'est peut-être que parce que il y a des fantômes là-bas que je n'arrive pas à ignorer.
Mais, et dans les cathédrales où vous avez, ou les églises où vous avez chanté sans micro en plus, vous y avez pensé?
Aux fantômes dans les cathédrales, aux gens qu'on chantait avant, non, pas forcément, mais j'ai pensé à ceux qui ont construit ces églises. Je trouve ça très émouvant. Et en les construisant, en sachant que, ça a été conçu aussi pour que les voix y résonnent.
Merci Camille d'avoir été en direct cet après-midi sur Europe 1. Music Hall, votre troisième album vient de sortir. Vous serez à la Cigale en mai. Vous serez cet été en France, en Europe. Enfin tout ça, on va le retrouver sur le site de l'émission et puis sur le vôtre bien sûr. Bonne fin d'après-midi à tous. On se retrouve demain avec un créateur de parfums exceptionnel, Jean-Paul Guerlain.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.